Donc, c'est par rapport au miracle de Fatima. Elle avait dit, Dieu veut instaurer dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Ça, c'est le point de départ. Donc, quand elle est apparue. Et elle a dit, et pour cela, il est prêt à donner un grand miracle, qu'on sache que c'est vraiment une demande du ciel, et ça comportera, pour qu'il y ait ma dévotion au cœur immaculé dans le monde, je voudrais que le pape avec tous les évêques consacre la Russie à mon cœur immaculé. Deuxièmement, qu'on dise le chapelet tous les jours. Troisièmement, que chaque premier samedi du mois, pendant 5 mois, on honore les offenses qui sont faites à mon cœur et qu'on les répare. On les répare comment ? Ben justement en disant son chapelet, en allant à la messe, en se confessant si possible ce jour-là. Donc elle avait dit, voilà, si vous faites ça, Dieu va établir, parce que tous les samedis du mois, premier samedi du mois, on se tournera vers le cœur immaculé pour réparer, le pape aura consacré la Russie avec tous les évêques, on dira son chapelet tous les jours, voilà, et par cette dévotion à mon cœur immaculé, le Seigneur établira le règne du Christ dans le monde. Et donc la paix, la connaissance de Dieu, et puis on sera prêt à passer vers l'éternité. Et pour donc accréditer ces demandes, qui en soi ne sont pas extraordinairement difficiles, mais en même temps faisables et puis demandent une certaine persévérance, pour accréditer ça, elle avait annoncé le 13 juillet que le 13 octobre, elle ferait un miracle que tout le monde verrait. Et c'est le fameux miracle du soleil devant les 70 000 personnes. C'était 1917. Voilà. Et il y a eu le centenaire en 2017. Voilà. Et alors, curieusement, l'histoire de la papauté avec Fatima, ben, ça se tourne un peu autour et j'y vais pas, etc. Donc, cette consécration a été très difficile à obtenir, mais bon, ça c'est le rayon, le pape et les évêques. Mais pour ce qui est des fidèles, nous, on peut toujours dire le chapelet tous les jours. On peut penser chaque premier samedi du mois, pendant 5 mois, aux offenses qui sont faites au cœur de la Vierge Marie et de proposer notre réparation en disant, ben moi je suis là, moi je t'aime, moi je vais à la messe, je dis mon chapelet, puis je me confesse ce jour-là en votre honneur. Donc de notre côté, on peut actionner des choses qui en soi sont la marche du monde, rien de moins, avec le moyen utilisable par des petits-enfants. Donc on se dit, l'orgueil des puissants, les armées, n'ont toujours pas réussi à avoir la paix, on pourrait, en prenant ce genre de moyens. Alors, curieusement, le pape ne s'est pas précipité à le faire. Et puis ensuite, quand ici est décidé, les évêques ne se sont pas précipités à le faire avec lui. Et donc, il y a eu toujours du tirage en disant, mais est-ce que ça a été fait ou non ? Parce que normalement, elle avait dit, me consacre la Russie pour qu'elle se convertisse. Sinon, elle répandra ses erreurs dans le monde. On était en 1917, qui n'avait pas encore eu lieu le 13 octobre, parce que c'est la révolution d'octobre, mais selon le calendrier julien des orthodoxes, c'est en fait en novembre qu'il y a eu la révolution. Et donc, la Russie était encore tsariste et orthodoxe. Et donc elle dit, sinon, elle répandra ses erreurs dans le monde. Et donc il y a eu la révolution bolchevique, et puis l'impact du communisme ensuite sur la marche du monde énorme. Et au départ, les papes n'ont pas obtempéré. Enfin, Pie XI, en fait, n'avait pas eu encore les éléments. Pie XII, en pleine Deuxième Guerre mondiale, en 1942, s'est dit, ben, c'est quand même trop bête, on aurait un moyen. Donc il s'est décidé à faire cette consécration, mais il était tout seul. Donc elle avait dit, le pape avec les évêques du monde entier. Les observateurs remarquent quand même que c'est en 1942 et après cette consécration que bon, la Russie ne s'est pas convertie, mais les armées hitlériennes ont commencé à refluer. Et on s'en est allé vers... Bon. Pie XII, après il y a eu Jean XXIII qui a lu ces communications de la Vierge Marie en entier, puisqu'il y a une troisième partie du message qui a été réservée au Saint-Père. Il a lu, il a remis dans l'enveloppe et aux archives secrètes en disant ben, « ça sera mon successeur qui verra ». Alors que la troisième voyante, sœur Lucie, avait dit « il faudra qu'au plus tard, en 1960, ça soit révélé et connu ». Et donc Jean 23 a laissé passer 1960 comme ça. Paul VI a pris les choses, il est allé en pèlerinage à Fatima et tout, donc ils disent oui, oui, mais ne font pas. Donc voilà, et c'est Jean-Paul II, étant très marial, qui a eu l'attentat dont il a été victime le 13 mai 1981, qui est justement l'anniversaire de la première apparition de Notre-Dame à Fatima. Donc il s'est dit, oulala. Il a dit, ben, la Vierge m'a sauvé. Donc il est allé à Fatima dire merci, et puis en même temps il s'est dit, bon, il y a cette consécration à faire. Voilà, donc il l'a fait en 84. Oui, ben, ça veut dire, voilà, on te présente la Russie, dont tu es la reine, et ce pays t'appartient, nous le reconnaissons, voilà. Donc les Russes sont d'accord ou pas, c'est une affaire entre la Vierge Marie et puis ceux à qui elle a demandé de le faire, puisqu'on est en solidarité les uns et les autres. Donc voilà, et en même temps de se dire, mais ils se convertissent du communisme à la foi orthodoxe, ou bien ils doivent aussi passer de la foi orthodoxe à la foi catholique, qui est la plénitude de la foi. Donc on peut discuter de tout ça, et puis on juge un peu aux résultats, si on peut dire. Donc on voit déjà qu'il y a une difficulté à répondre à la demande précise, et les fruits en sont... mitigé. Voilà. Et bien, actuellement, l'Église, de ça, elle ne parle plus trop, en fait. Oui et non. Là encore, Benoît XVI est allé deux fois à Fatima. Notamment, en l'an 2000, on a fait connaître toutes ces choses, alors qu'on avait demandé en 1960. On a perdu 40 ans, mais bon, on l'a fait quand même. Et en l'an 2000, le cardinal Ratzinger avait dit, ben, on peut considérer que c'est des événements du passé. Il y avait eu la chute du mur de Berlin. Donc l'idée que la Russie avait renoncé, disons, au communisme. Jean-Paul II avait fait les consécrations en 1984 avec un certain nombre d'évêques présents à Rome. Et, bon. Et puis surtout, il y avait eu l'attentat, parce que dans les visions de Fatima, elle avait dit « je vois un homme en blanc qui est... » Alors là, c'était sur lequel on tire avec des armes à feu et des flèches. Bon, c'était une image un peu comme ça. Donc il disait, ben, c'est l'attentat du 1981, place Saint-Pierre. Donc disant, voilà, on peut considérer que l'affaire est close. Et puis il est retourné en 2010, et il était devenu pape Benoît XVI entre-temps. Et là, il a, au contraire, dit, celui qui croirait en avoir fini avec Notre-Dame de Fatima se tromperait. Puisse les 7 années qui nous séparent du centenaire hâter la dévotion, l'établissement de la dévotion au cœur immaculé de Marie dans le monde et le règne du Christ. Donc là, on s'était dit, donc il l'a invité pendant 7 années à s'y mettre vraiment. Bon, et puis il s'est retiré en 2013. Et le pape François, qui lui a succédé pour le centenaire en 2017, est allé à Fatima et il a canonisé les deux voyants. Qui étaient morts les premiers, les deux petits de 8 et 10 ans, là, Sainte Joacinthe et Saint François Marteau. Donc il les a déclarés saints, ce qui veut dire la façon dont eux se sont comportés en chrétiens et la façon dont ils ont prié est une bonne façon à imiter. Donc c'était une façon vraiment de dire, Fatima, ça fait les saints en moins de 2 ans, parce qu'ils avaient 8 ans et ils sont morts à peu près 2 ans après. Et canonisé, donc devenu saint, alors que nous, on traîne et puis on n'est pas encore apte à aller dans le ciel, alors que vite. Donc de dire, vous voulez devenir des saints vite, eh bien, dites le chapelet tous les jours. Bon. Et donc il a fait ça, mais il n'a pas fait par rapport à la Russie ou quoi. Et c'est là, pendant la guerre d'Ukraine, les évêques d'Ukraine et de Russie ont demandé au pape, consacrez-nous. Donc là, le pape François a dit, ben, entendu, je le fais. Et là, tous les évêques du monde ont envoyé et l'ont fait dans leur cathédrale chacun. Donc là, la consécration a été faite. Mais curieusement...
Là,
Et oui, puis ils voulaient la paix, ils étaient bien placés pour vouloir la paix. Oui, mais déjà, c'est au moins une demi-province russe. Je veux dire, historiquement, en 1917, l'Ukraine comme telle n'existait pas. C'était la Pologne. Donc je veux dire, ils sont concernés en tant que demi-russes, au moins pour une partie des gens. Et puis, bon, là, ils étaient pris dans un conflit où la Russie était partie prenante, et on savait les trucs sur le coin de la figure, et de dire, derrière cette consécration, il y a la paix possible. Donc c'est à ce titre qu'ils ont demandé. Et le pape, en fait, il a consacré Russie et Ukraine, bon, pour au niveau communication, entre guillemets, dire, il y a deux pays en guerre, je demande la paix pour les deux. Et en même temps, pour dire, voilà, il n'y a pas un aspect de superstition ou quoi, la Russie, c'est quoi la Russie? Je mets tout le monde. Pie XII avait consacré le monde entier, par exemple. Donc la Russie est consacrée, oui, avec tout le monde, mais la Vierge avait demandé qu'on dise précisément la Russie. Pourquoi? Parce que ça doit servir de signe. Si elle se convertit un peu brutalement, effectivement, et elle seule, on comprendra que c'est dû à Notre-Dame de Fatima. Alors que si on noie le poisson, l'effet sera noyé aussi. Et du coup, on se dira, cette dévotion, oui, on peut faire toutes les prières qu'on veut, mais pourquoi que celle-là? Pourquoi pas d'autres? Et le piège de l'orgueil. C'est toujours la chose est aussi simple que ça. Et donc le pape l'a fait, mais curieusement, il n'a pas dit un mot de Notre-Dame de Fatima. Alors que les évêques, dans leur demande, l'avaient mentionné. Donc là encore, une façon de dire, je fais, mais je me... Et où est la réticence? C'est que on n'aime pas trop que Dieu se mêle un peu trop directement de nos affaires. On préfère garder les commandes. Or, justement, ce que combat Dieu, c'est « Pouvez-vous, s'il vous plaît, lâcher la maîtrise? Le souverain, c'est moi. Et quand on voit ce que vous avez fait, on comprend qu'il vaut mieux que je m'en occupe, moi. » Et donc, il a besoin de l'offrande de notre humilité pour tout rattraper. Et on veut bien tout faire ou tout supporter, sauf lâcher ça et faire le geste d'humilité. Donc c'est pour ça que, en fait, il y a une espèce de... C'est bêtement embuté de dire, j'ai tout fait exactement. Le Christ est mort à la croix, pourquoi il y a encore du péché dans le monde? Parce qu'on ne vient pas à la croix se mettre sous la douche de son sang. Et donc on continue nos vieilleries, alors que normalement on pourrait en être débarrassé. Il suffit de venir là. Et c'est la même chose par rapport à cette dévotion. Surtout quand on pense que, j'ai dit 1960, vous savez qu'il y a eu le Concile Vatican II de 1963 à 1965, donc 3 années, pendant lesquelles de longues semaines d'affilée, tous les évêques du monde étaient à Rome avec le pape. Donc là, on se dit, au début d'une séance, ça vous aurait embêté en 5 minutes de lire un acte de consécration. Bon, vous ne l'avez pas fait, tout le monde était sur place, ça coûtait 0 €. Voilà. Là, il faut se dire aussi, on juge l'arbre à ses fruits. Donc la récolte est assez discutable, disons. Mais il y a plein de... En soi, moi, voici ce que je pense profondément. L'événement était effectivement capital et très important. L'Église se rassemblant pour prendre le temps de dire « Que devient le monde et que dois-je faire ?» Donc ça, à mon avis, c'est incontestable. Pendant le Concile et surtout ensuite après et jusqu'à maintenant, une certaine poignée de gens soi-disant éclairés ont estimé qu'il fallait partir dans un sens qu'on appelle un peu progressiste, c'est-à-dire de rapprochement du monde, de tempérer tout ce qui est sacré et surnaturel pour ne pas trop apparaître comme l'espèce de forteresse, mais par contre rejoindre les gens, les petits, ceci, cela, et ont, de façon un petit peu sectaire, essayé d'orienter, parfois brutalement, toute l'Église en ce sens, y compris dans la célébration de la messe et tout ça. Ce qui n'était pas le projet initial du Concile, qui était plutôt que les courants s'expriment et puis que nous avancions. Donc les textes en eux-mêmes ont accueilli les deux grandes tendances, disons, cette tendance un petit peu moderniste et puis le gros poids de l'Église à travers les siècles, il ne doit jamais changer puisqu'elle ne peut pas se tromper. Sauf que là, on a ouvertement imposé des changements sous couvert du Concile et plus ou moins à l'instigation de certains de ses passages. Bon, et puis ça aboutit à un affaiblissement de l'Église, à une division profonde que vous avez pu toucher à travers ces conversations. Pendant que le monde affichait quoi ? Une hostilité de plus en plus forte à Dieu. Alors que c'était le moment où l'Église se mettait, je vais aller à la rencontre du monde et en dialogue. Et donc je baisse les armes qui pendant des siècles, à la fois ont protégé l'Église et sauvé les gens. Et puis permis que le monde ne soit pas complètement livré à la puissance du mal. Donc pour finir sur le Vatican II, je pense qu'il faut être conscient qu'il y a une sorte de coup d'État qui n'est pas définitif ou inéluctable, mais dont on voit des fruits. Le peu qu'on a gagné en proximité ou en écoute des uns et des autres, c'est payé beaucoup trop cher. Et de toute façon, le monde ayant signifié je ne veux pas être en dialogue avec l'Église, je veux que le Christ disparaisse de la surface de la terre, le message est très clair. Donc dans ces conditions, on ne dit pas, moi je continue avec vous. On dit que le meilleur gagne. Surtout que l'enjeu, c'est quoi ? C'est la vie éternelle de tous ceux qui vont croire ou pas. Donc à un moment donné, on dit, voilà. Et en soi, dernier petit mot, dans l'optique catholique, on est toujours essentiellement traditionnel, c'est-à-dire je vous transmets le témoignage tel que je l'ai reçu depuis 2000 ans, sans rien changer, puisque c'est lui qui donne la vie et qui sauve. Et aucun catholique ne peut dire non, ça ne se dit plus, ça ne va plus. Et s'il dit je change, il dit au revoir, moi je reste catholique. D'où la réaction. Et curieusement, actuellement, vient de Rome donc, et du Saint-Père, une attitude extrêmement forte sur tout ce qui a précédé Vatican II, ce qui est en soi soit un aveu, soit une folie. Je suis dépositaire d'un truc que je vous interdis, et vous vous contentez de ma dernière petite version à moi. J'aime mieux Pierre et Paul, évidemment. Voilà, donc c'est ça un peu la problématique de Vatican II. Exactement, mais c'est précisément un exemple tout à fait impressionnant, c'est qu'actuellement dans le monde, le seul pays qui officiellement fait référence à Dieu, restaure ses commandements, refuse qu'on les transgresse dans la législation, bon, qu'il y ait des pécheurs partout, c'est le cas, mais pas dans la législation du pays, et qui se montre, qu'on le veuille ou non, beaucoup plus ouvert à des perspectives de négociation et de dialogue que les autres, et dire c'est un pays qui fait montre d'une sorte de conversion très forte, alors que tous les autres, y compris les anciennes nations chrétiennes et tout le bloc dit occidental, otanesque et puis États-Unis, est dans la, non seulement dans la rébellion, le reniement, mais de plus en plus sauvage. Donc voilà. Donc on se dit c'est curieux que dans l'histoire cette Russie qui était censée se convertir et servir de signe émerge actuellement sous un jour qui pour un chrétien est quand même à réfléchir. Et donc la dimension, je dirais, pas purement mercantile ou matérielle, mais aussi spirituelle, est officiellement prise en compte, ce qui est tout à fait nouveau. Avant les guerres sont des guerres d'intérêt, c'est tout. Donc voilà. Après, je dis pas qu'on cherche à battre la Russie parce que c'est le signe de Fatima, pas du tout. Je veux dire, je suis pas, c'est pas ça. Mais c'est intéressant de voir que curieusement émergent dans la trame des circonstances historiques des éléments qui appartiennent à un discours qui en soi est très loin de la marge du monde. Et donc le vrai ressort, il est dans la confiance dans le Christ et sa mère, puisqu'il dit « Mais je veux établir mon royaume et je ne triompherai pas sans que ma mère soit honorée au même titre que moi. » Donc ça, il est... Bon, c'est un sémite, donc touche pas à sa mère. Donc là, on sent bien, je dis, à la chose de dire « Mais vous m'adorez comme Dieu, je veux que la mère de Dieu soit honorée, comme ça vous m'aurez perçu dans toute ma vérité. » Et là, vous avez quand même les protestants exactement en face. Le Christ seul, Marie, ce n'est qu'une créature. C'est de la folie, tu n'es qu'une créature, tu parles comme ça de la mère de ton Dieu. Et voilà, enfin, je veux dire, on sent humainement la contradiction et théologiquement la folie. Parce que, messieurs les protestants, le corps du Christ est bien quelque chose de créé, son âme aussi. C'est sa personne qui est divine, donc il ne faut pas enlever tout ce qui est humain pour avoir de la divinité pure. Il faut voir que la divinité se communiquant inonde, imprègne, rassemble et cherche le contact, le commerce avec tout ce qui est humain. Il nous aime, donc il veut se coller à nous. C'est ça le mystère extraordinaire. Alors qu'il n'a pas besoin de ça. C'est nous qui sommes élevés à sa dimension et non pas lui qui est souillé par nous. Il nous aime, il va nous sanctifier. De même que lui est absolument impeccable et la source du salut, il a voulu une mère avec un cœur immaculé, sans aucun péché. Et nous qui sommes des pécheurs, il nous brosse pour que ça soit réparé. Donc du coup, voilà, on n'est pas gênant par rapport à Dieu, on est ce qui le comble. Et voilà ce qu'on ne veut pas comprendre. Tout ça, la clé est quand même la distorsion de l'orgueil. Voilà, c'est vraiment ça, le cœur, le fond de... Vous voyez comme on est établi à partir des quelques bribes déjà vues. En fait, on voit bien comme c'est une unique réalité, un seul mystère de Dieu qui nous cherche, nous a trouvés et a rendu possible la rencontre. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc nous n'avons pas eu l'initiative, mais nous sommes les grands bénéficiaires. Et la seule chose qui nous empêche d'en profiter et qui du coup voile encore la victoire de Dieu, c'est que, au départ, dès les premières approches de Dieu, la réaction a été « non, moi, je ». Vous lui dites « mais fantastique, alléluia, nous allons faire tout ce que tu veux ». Et donc c'est « non, moi, je » qui bloque tout. Et donc c'est pour ça que la foi et le baptême commencent par « je ne suis pas à la première place, mais à la deuxième, moi, je réponds ». Et c'est lui qui dit « moi, Dieu, je suis ». Donc là, vous sentez Descartes, la clé de la philosophie moderne, c'est « je pense donc je suis ». Et à partir de moi, je fais même la preuve de l'existence de Dieu. Autrement dit, l'existence de Dieu dépend de ma capacité d'y penser. Donc on sent bien la folie, la distorsion et l'illusion dans laquelle on est plongé par cet orgueil de la pensée. Que la pensée éternelle de Dieu, devenu un homme, est venu rectifier. Voilà. Donc on est en position de responsabilité, d'accueil, et puis voilà. Et ce qui n'a rien d'humiliant, on pourrait ne pas exister du tout. Donc on est au moins là, et en plus il nous appelle jusqu'à son éternité, donc tout le programme est fantastique, mais il faut accepter que ce soit Dieu qui l'ait pensé. Et qu'il l'a fait pour nous, et du coup le faire avec lui, avec les petits moyens qui nous ont été donnés. Donc moi j'insiste beaucoup sur le chapelet à cause de Fatima qui est de notre temps, puis qu'on sent bien qu'on a une période quand même assez particulière. Mais après ça, vous avez tous les sacrements où c'est le Christ et l'Église qui font, il n'y a qu'à se laisser porter en fait. Et les sacrements où je me laisse porter par le Christ et l'Église, en fait, je me plonge dans tout ce qu'ils ont déjà fait. Mais une fois plongé dans tout ce qu'ils ont déjà fait, comme c'est me mettre à vivre comme Dieu lui-même, du coup, je deviens d'autant plus actif et rayonnant, et portant témoignage, et m'engageant, et luttant contre le mal, et finalement aboutissant à la croix du Christ, sur laquelle je vais me retrouver aussi à un moment donné crucifié. Mais c'est le moment de sa gloire, de sa plus grande efficacité, et donc aussi de la mienne. Vous voyez, c'est tout le... Il y a une cohérence totale de la vie chrétienne. Ça vous va? Donc là, je vous propose qu'on... J'ai dit, en fait, ce qui va être dit, donc c'est pratique. voilà, je reprends donc le document, le PDF, la vocation divine, et j'en étais au kérigme. Donc vous reconnaissez rien qu'en lisant la diapo, tout ce qu'on vient d'évoquer. Donc on a eu Hébreu 1 et Jean 1. Voilà, l'intervention du Christ, c'est ça la bonne nouvelle et l'annonce. Alors là, je donne en détail, si on peut dire, la nomenclature de comment tout ce mystère qu'on vient d'évoquer se présente à nous. Au passage, vous remarquez, c'est les événements de l'an 2000, et à travers Notre-Dame de Fatima, et puis un petit commentaire sur aujourd'hui, on voit que c'est le même et unique événement qui se continue. Dieu se donne, il a tout fait pour qu'on puisse l'accueillir, et qu'est-ce qui bloque ou pas? Et comment se débloquer? Donc là, vous avez l'annonce, le kérigme de ce déblocage possible. D'abord, le credo. Donc le credo, c'est le « Je crois en Dieu » qu'on a récité au début du chapelet, du rosaire, et qu'on dit aussi à la messe, comme par hasard, le dimanche. Donc histoire de se remettre dedans. Le credo, c'est tout ce qui est à croire. Credo en latin, ça veut dire « je crois ». Donc vous avez toutes les vérités de la foi. Donc je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate. C'est qui ce Ponce Pilate là? Gouverneur de Rome, en Judée, à Jérusalem, au début du 1er siècle. Ah bon? Donc dans la foi, je dois inclure ce Ponce Pilate qui a crucifié Jésus. Donc là, vous voyez, curieusement, au milieu des articles de foi viennent des faits historiques. Et là, on comprend très bien que c'est une réalité qui vient à nous. Donc, chose remarquable, le credo mélange, ou plutôt est fait, de dogmes, donc de vérité à croire, et de faits historiques. Ce qui nous montre, il s'agit de Dieu rentrant dans l'histoire pour la conduire à l'éternité. Voilà la foi. Nous retrouvons ensuite avec la rédemption. J'ai dit tout à l'heure que ça voulait dire on a été racheté, il a payé pour nous et il s'est substitué à nous. En quoi a consisté cette œuvre de rédemption? J'ai dit plusieurs fois, le Christ a enlevé le mal pour qu'il ne soit plus un obstacle entre Dieu et nous. C'est que l'obstacle a été, si vous vous reportez à la diapo de la chute, soupçon, doute, désobéissance, transgression. Qu'a fait Jésus? Il a répondu par témoignage à la vérité, obéissance jusqu'à la mort et élévation en récompense de cette obéissance. Et c'est ainsi qu'il a réparé le péché originel et les péchés personnels. Donc, en soi, le Christ a vécu d'abord lui-même personnellement, puisqu'il s'est fait homme, et ensuite nous donne la grâce de vivre ce que lui-même a vécu avec sa mère. C'est là où spontanément nous avons le doute d'avoir la foi, là où nous avons le soupçon de Dieu, il nous faut lui faire confiance. Remarquez que c'est au moment où on va mourir que notre confiance est la plus immense. Là, je vais tomber dans l'abîme de la mort et Dieu me dit « mais fais-moi confiance ». Et là, qu'on s'abandonne à lui à ce moment-là, c'est à ses yeux très méritoire. C'est exactement le contraire du péché. Le péché étant « toi, tu me dis quelque chose, mais je préfère faire autrement parce que c'est plus sûr, soi-disant ». Et là, au moment où tu devais me protéger, tu étais mon père et tout ça, et maintenant les bandits ont menti, j'ai été jugé et je vais mourir, et je crois en toi, tu ne m'as pas menti. Au lieu de dire, bon, ben là, je me suis fait avoir. Voilà, c'est pour ça qu'à l'instant de notre mort sera le moment décisif où je pourrai montrer ma foi et ma confiance, et où, en effet, j'aurai fait réparation de tous mes péchés. Donc la rédemption, c'est exactement l'inverse du péché originel qui se trouve ainsi réparé et qui a pris en plus tous les péchés personnels. Je le crois suffisamment redit dans la journée, donc je n'insiste pas. Ça vous va? Alors, Le credo, donc, dogme et histoire qui nous rapporte ce mystère de Dieu venu, devenu homme et ayant réalisé la rédemption, ce credo nous est transmis avec trois, j'ai mis là trois petits signets, selon trois instances qui le garantissent. Nous avons, premièrement, l'accomplissement des Écritures, deuxièmement, la tradition apostolique ininterrompue, et troisièmement, la garantie du magistère. Cela veut dire que, une fois que le credo me présente la foi expliquant les faits historiques dont on me transmet la réalité jusqu'à nos jours, qu'est-ce qui fonde et les colonnes, si vous voulez, les fondements sur lesquels appuyer ma conviction, ma certitude? Trois choses. Premièrement, les événements du Christ avaient été annoncés des siècles et des siècles d'avance. Donc ça veut dire que les Écritures sont accomplies. Autrement dit, Dieu avait révélé à des gens à qui il avait parlé, qu'on appelle les prophètes, que viendrait un temps où, et tralala, l'air. Donc c'était dit comme ça. Et lorsque le Christ est apparu, au vu de sa vie et dans ses paroles, il a explicitement fait référence aux prophéties anciennes pour que les gens puissent comprendre. Il fait cela selon les Écritures et il est donc ce que les Écritures avaient promis. Donc vous voyez qu'en faisant un petit cheminement, notre intelligence acquiert une conviction. Si on disait juste « c'est Dieu, mets-toi à plat ventre » et puis « discute pas », bon, je le fais parce que il est plus fort, mais j'ai pas la foi. Alors que si il prend le temps de me prévenir d'avance, ensuite de le faire, puis de me dire « tu vois ce que j'ai fait, oui », eh bien, ça avait été dit. Alors, je fais le petit circuit intellectuel et je me dis donc, c'est bien lui. Voilà. Et cela, on le fera pendant le carême et juste avant votre baptême. Il y a une espèce de... Chaque année, l'Église se replonge dans tout ça et relit continuellement des textes de l'Évangile en parallèle avec les textes anciens de l'Ancien Testament, des prophètes, Isaïe et tout ça. C'est, voilà, la messe demain, ça commence par lecture du livre d'Isaïe. Il viendra dans ces jours que ma montagne sainte, Jérusalem, etc., car je viendrai et ça sera la paix. Autrement dit, je vais détruire le mal. Donc, prophétie d'Isaïe réalisée en Jésus. Avec des prophéties parfois extrêmement précises, dans les psaumes notamment, des vauriens me cernent et m'entourent, ils percent mes mains et mes pieds. Dit à peu près... 500 ans avant la crucifixion. Bon, par hasard, mais n'empêche que ça coïncide quand même bien. Il me donne du vinaigre pour ma soif. Et puis on nous raconte dans l'Évangile qu'à un moment donné, Jésus dit « j'ai soif ». Et on lui présente, un soldat trempe une éponge dans du vinaigre et le met au bout d'un roseau et lui présente. Et après il dit « tout est accompli ». Autrement dit, toutes les choses promises ont été faites, j'ai restauré l'union avec Dieu. C'est fait. Donc, voilà. L'accomplissement des Écritures. Donc, n'importe qui se tourne vers la foi, et vous y êtes très fortement encouragé, c'est de lire la Bible et de voir que, en effet, c'est bien ce que j'ai compris du Christ. Ça m'aide à mieux percevoir son visage, la réalité de sa volonté. Et en même temps, quand je lis l'Évangile, ben, je suis très heureux de comprendre les anciens textes. Pourquoi Abraham, en fait, emmène son fils et puis il est presque... Dieu lui dit, ben, il faut me sacrifier ton fils, comme ça je saurai que tu m'aimes. Puis au moment où il va sacrifier son fils, Dieu l'arrête, l'appelle en disant, mais arrête, ne fais pas de mal au garçon. Et il voit un agneau, un bélier juste pris dans le buisson, et finalement, il sacrifie le bélier à la place de son fils. Presque 1800 ans donc avant Jésus-Christ. Et du coup, quand on voit Jésus sur la croix, on comprend que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils pour que le monde soit sauvé. Jésus est vraiment mort, contrairement au fils d'Abraham. Il se présentait comme l'agneau immolé. Donc on voit la clé de lecture, si on peut dire, mais il est ressuscité le troisième jour. Donc après on nous dit, ben, l'enfant a été rendu à Abraham, et Jésus est ressuscité, donc la rédemption s'éclaire d'autant plus par les anciens textes. Donc vous voyez, plus on fait ce va-et-vient, et plus notre foi, je dirais, se documente et devient vraiment l'acte de mon esprit qui cherche Dieu et s'offre à lui, en prenant toute sa révélation, plutôt que d'être simplement « il est le plus fort, il commande, j'obéis, puis on ne cherche pas les histoires ». C'est pas ça la foi, c'est plus profond. Donc, accomplissement des Écritures. Ensuite, vous avez « tradition apostolique ininterrompue ». Donc c'est quelque chose de tout à fait important de voir que depuis le Christ, Saint Pierre, Saint Paul, Saint Jacques, Saint Jean, etc., les 12 apôtres bien connus, le témoignage s'est transmis jusqu'à nos jours par le pape et les évêques qui sont les successeurs des apôtres, en communion les uns avec les autres, comme on l'a lu ce matin dans la première lettre de Saint Jean. Nous l'avons vu, nous l'avons touché et nous vous l'annonçons pour que vous soyez en communion avec nous. Et nous, nous sommes en communion avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Donc cette tradition est ininterrompue chronologiquement. On passe d'un pape à l'autre et on a tout est attesté parfaitement. Ils se transmettent toujours la même doctrine. À Vatican II, il y a un petit fléchissement. Bon, mais l'essentiel est là, toujours, jusqu'à pape François, pareil, qui ne dit pas ce qu'il a envie. Alors, il dit des choses qui lui passent par la tête, certes, mais quand il enseigne ce que ses prédécesseurs et tout le monde. Et on remonte ainsi jusqu'à, surtout qu'on peut contrôler, entre guillemets, en lisant les lettres de saint Paul, le catéchisme de l'Église catholique et tout ça, et on voit que tout coïncide. Donc, tradition ininterrompue. Vous avez dans les sectes protestantes au XIXe siècle un américain luminé qui vous sort une théorie, hop, voilà, fondateur de religion vaguement chrétien parce qu'il lit l'évangile depuis 2000 ans, et puis c'est maintenant que Dieu nous parle. Donc on voit bien que ce qui atteste la solidité du kérigme, c'est la tradition apostolique ininterrompue. Ceci a souligné malgré les persécutions acharnées de tous les pouvoirs d'ici-bas. Dès que Jésus est ressuscité, que les apôtres se sont manifestés au monde après la Pentecôte, on a commencé à les persécuter. Donc faire taire cette voix. Non seulement elle s'est pas tue, mais au bout de 3 ou 4 siècles de persécutions subies, même l'empereur romain se convertit. Ensuite vous avez la chrétienté médiévale, etc., et puis maintenant sur tous les continents. Donc vous avez non seulement cette tradition ininterrompue, mais en effet une communication sur l'ensemble du genre humain. Et puis dernier élément, pour la solidité du kérigme, c'est garanti par le magistère. Donc j'ai les écritures où je fais mon va-et-vient personnellement avec mon intelligence pour comparer les textes et tout ça. Je sais que ce qui m'est transmis, c'est pas machin qui a une idée géniale, c'est ce qui avait été vécu et dit depuis 2000 ans, et j'en vis encore. Et troisièmement, il y a une instance dans l'Église qui est concrètement le pape et les évêques qui ont la fonction garantie par Dieu lui-même de ne pas enseigner d'erreurs qui conduiraient à la perte de nos âmes. Donc quand il y a des difficultés dans la foi, on dit « mais que dit Rome ?» Et Rome étudie et dit, ben voilà ce que je crois. Autrement dit, voilà ce que Pierre et Paul ont enseigné. Et c'est donc telle position qui est la bonne. Et là, on est parti vers une hérésie, où là, on a oublié qu'eux, et ainsi de suite. Donc, ils peuvent dénoncer les erreurs et renforcer la vérité par une définition dogmatique qui, elle, est infaillible. Donc, voilà. Ça fait que, du coup, quand le kérigme rejoint, c'est-à-dire l'annonce du salut accompli par le Christ, j'exerce ma foi en investissant mon intelligence et en demandant ma volonté d'adhérer sur la base des Écritures, de la tradition et du magistère. Alors, Écriture et tradition sont de niveau divin. Les Écritures, c'est la parole révélée de Dieu, consignée par écrit. La tradition avec les sacrements dans l'Eucharistie, c'est Dieu lui-même qui agit et qui est même présent là dans l'hostie, c'est Jésus en personne. Donc là, vous sentez bien qu'on a un niveau divin absolument infaillible. Le magistère, c'est en dessous, c'est des simples hommes, papes et évêques, consacrés par leur ordination, dont la fonction est assistée par l'Esprit-Saint. Donc, écriture, tradition, c'est les sources divines de ma foi. L'enseignement du magistère, c'est la garantie qui m'est donnée dans l'Église. Voilà. Bon, j'arrête là-dessus. Il me reste quelques minutes. Je vous présente rapidement, en vous proposant dans les jours qui viennent, quand vous voudrez, de lire l'Évangile selon saint Marc. Un petit peu pour nouer la gerbe de cette séquence. L'Évangile selon saint Marc se présente comme le plus court. Donc c'est l'avantage. On peut le lire d'affilée, et c'est ce que je vous conseillerais en le faisant en une ou deux journées, si vous voulez, ou peut-être sur la semaine, mais parce qu'on le lit par petits bouts à la messe le dimanche. Mais là, c'est pour avoir l'impact un peu choc. C'est un évangile très court qui se lit en gros en 2 heures et qui est fait pour nous obliger à nous poser une question. Ça commence en effet, le premier verset, Évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. Donc en gros, je vous affirme que ce Jésus-là était le Messie, le Christ et le Fils de Dieu. Vient ensuite la première partie, verba gestaque, ça veut dire les paroles et les gestes accomplis par Jésus. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Qu'est-ce qu'il a fait comme miracle? Puis, deuxième partie, le récit de la passion du Christ et de sa mort sur la croix, qui est le moment où culmine son grand amour et où il authentifie ses promesses, ses paroles et ses miracles par le don de sa vie. Et une fois qu'on m'a raconté la rédemption, la mort de Jésus sur la croix, il y a quelques versets. 3 jours après, le tombeau était vide. Un ange a dit aux femmes qui ont découvert le tombeau vide qu'il était ressuscité. Point. Vous comprenez que la question qui se pose, c'est « Je vous annonce Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il a fait des miracles, il a guéri les malades, fait marcher les boiteux, etc. Il a enseigné l'amour du prochain. Il est mort crucifié pour nous après avoir offert sa vie dans son Eucharistie. Son tombeau était vide. Les apôtres et jusqu'à présent, l'Église prétend qu'il est vivant. Et moi là-dedans, qu'est-ce que je crois ?» Donc vous voyez, après avoir lu l'Évangile selon saint Marc, normalement vous avez les éléments pour vous dire ben, « j'ai raison de penser que Jésus est Seigneur et qu'il est toujours vivant » ou alors finalement, c'était « je ne pense pas ». Vous voyez ? Donc c'est pour ça que ça fait une lecture assez bien, puisque vous avez comme ça tout le mystère du Christ, mais présenté en forme de coup de poing. Décide-toi, si tu as les moyens de prendre position. Voilà. Bon, ben c'est le moment, donc je vous propose d'arrêter là, puis on se retrouve normalement le 14 janvier. Voilà, mais avant, le 7 décembre, un peu avant 11h30, au quartier Carnot, pour l'entrée en catéchuménat.